Avril 1842. Baudelaire a 21 ans. Il est majeur. Il entre en possession de l'héritage 70 000 francs or que lui a laissé son père et il s'empresse d'en dépenser une bonne partie.
Je me suis épris uniquement du plaisir, d'une excitation perpétuelle. Les voyages, les beaux meubles, les tableaux, les filles, etc. J'en porte cruellement la peine aujourd'hui.
L'année suivante, après avoir essayé de deux autres logements, Baudelaire s'installe à l'hôtel Pimaudan, aujourd'hui hôtel Lauzin, dans l'île Saint-Louis. Jeanne, de qui il vient de faire la connaissance, s'installe à proximité. Amis, femmes, promenades. Baudelaire contracte ses premières liaisons littéraires avec Sainte-Beuve, avec Hugo, avec Théophile Gautier, et il commet aussi ses premières œuvrettes. Il contracte enfin ses nouvelles dettes. Les parents s'émeuvent, ils songent à un conseil judiciaire.
Ces rêves de conciliation me font mal. Je ne puis, comme je te l'ai dit, te promettre qu'une année de travail et de raison, rien de plus. Il y a des amours propres virils que toi, femme, et sa femme, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi m'obliges-tu à être si dur? Et te fais-tu de pareilles illusions? Je t'embrasse bien. Et comme bonne nouvelle, je puis t'affirmer que quand j'aurai fait un ou deux romans, je sais où les vendre. Deux mois de travail suffisent. Un roman de 10 feuilletons vaut, terme moyen, 500 francs. Un roman de 10 feuilles, pour une revue, 1000. Je te prie de lire ceci très attentivement parce que c'est très sérieux et que c'est un appel suprême à ton bon sens et à la tendresse si vive que tu dis avoir pour moi. Je te donne d'abord cette lettre sous le sceau du secret et je te prie de ne la montrer à personne. Ensuite, je te prie en grâce de n'y voir aucune intention de viser au pathétique ni de te toucher autrement que par quelque raisonnement. L'habitude bizarre qu'ont prise nos discussions de se tourner en aigreur dont souvent il n'y a rien de vrai chez moi, l'état d'agitation dans lequel je suis, le parti pris chez toi de ne plus m'écouter m'ont obligé à prendre la forme d'une lettre où je veux te persuader combien tu peux avoir tort, malgré toute cette tendresse. J'écris tout ceci à tête bien reposée. Et quand je songe à l'état de maladie dans lequel je suis depuis plusieurs jours, causé par la colère et l'étonnement, je me demande comment, par quels moyens je pourrais supporter la chose accomplie. Vous ne cessez, pour me faire avaler la pilule, de me répéter que cela n'a rien que de tout naturel et nullement déshonorant. C'est possible, et je le crois, mais en vérité, qu'importe ce que c'est réellement pour la plupart des gens, si c'est tout autre chose pour moi. Tu regardes, m'as-tu dit, ma colère et mon chagrin comme tout passager. Tu présumes que tu ne me fais un bobo d'enfant que pour mon bien, mais persuade-toi donc bien une chose que tu sembles toujours ignorer, c'est que, vraiment, pour mon malheur, je ne suis pas fait comme les autres hommes.
En septembre 1844, le tribunal civil de Paris désigne Maître Ancel, notaire à Neuilly, comme conseil judiciaire de Charles Baudelaire. De Charles Baudelaire qui, de majeur, redevient mineur aux yeux de la loi. Acculé par la misère et par des échecs, car le salon de 1845 n'est pas un succès, Baudelaire attente prudemment à ses jours. Il écrit à Ancel le 30 juin 1845...
Quand Mademoiselle Jeanne Lemaire vous remettra cette lettre, je serai mort. Elle l'ignore. Vous connaissez mon testament. Sauf la portion réservée à ma mère, Mademoiselle Lemaire doit hériter de tout ce que je laisserai, après paiement fait par vous de certaines dettes dont la liste accompagne cette lettre. Je meurs dans une affreuse inquiétude. Rappelez-vous notre conversation d'hier. Je désire, je veux que mes dernières intentions soient strictement exécutées. Deux personnes peuvent attaquer mon testament, ma mère et mon frère, et ne peuvent l'attaquer que sous prétexte d'aliénation mentale. Mon suicide, ajouté au désordre divers de ma vie, ne peut que les servir pour frustrer Mademoiselle Lemaire de ce que je veux lui laisser. Il faut donc que je vous explique mon suicide et ma conduite à l'égard de Mademoiselle Lemaire, de telle sorte que cette lettre adressée à vous, et que vous aurez soin de lui lire, puisse servir à sa défense. En cas que mon testament soit attaqué par les personnes ci-dessus nommées. Je me tue sans chagrin. Je n'éprouve aucune de ces perturbations que les hommes appellent chagrin. Mes dettes n'ont jamais été un chagrin. Rien n'est plus facile que de dominer ces choses-là. Je me tue parce que je ne puis plus vivre, que la fatigue de m'endormir et la fatigue de me réveiller me sont insupportables. Je me tue parce que je suis inutile aux autres et dangereux à moi-même. Je me tue parce que je me crois immortel et que j'espère. Au moment où j'écris ces lignes, je suis tellement bien doué de lucidité que je rédige encore quelques notes pour M. Théodore de Banville et que j'ai toute la force nécessaire pour m'occuper de mes manuscrits. Je donne et lègue tout ce que je possède à Mademoiselle Lemaire, même mon petit mobilier et mon portrait, parce qu'elle est le seul être en qui j'ai trouvé quelque repos. Quelqu'un peut-il me blâmer de vouloir payer les rares jouissances que j'ai trouvées sur cette affreuse terre? Je connais peu mon frère. Il n'a pas vécu en moi ni avec moi. Il n'a pas besoin de moi. Ma mère, qui, si souvent et toujours involontairement, a empoisonné ma vie, n'a pas non plus besoin de cet argent. Elle a son mari. Elle possède un être humain. Une affection, une amitié. Moi, je n'ai que Jeanne Lemaire. Je n'ai trouvé de repos qu'en elle. Et je ne veux pas, je ne peux souffrir la pensée qu'on veuille la déposséder de ce que je lui donne sous prétexte que ma raison n'est pas saine. Vous m'avez entendu ces jours-ci causer avec vous, étais-je fou? Jeanne Lemaire est la seule femme que j'ai aimée. Elle n'a rien. Et c'est vous, Monsieur Ansel, un des rares hommes que j'ai trouvé doué d'un esprit doux et élevé que je charge de mes dernières instructions auprès d'elle. Montrez-lui mon épouvantable exemple. Et comment le désordre d'esprit et de vie mène à un désespoir sombre ou à un anéantissement complet. Adieu. Lisez-lui ceci. Je crois en votre loyauté et sais que vous ne le détruirez pas.
Étant conscient qu'il se devait à sa patrie, selon les termes de l'admonestation que lui adressa son commissaire de police, Baudelaire reprit goût à la vie. Samuel Cramer, le héros de la nouvelle La Fanfare L'eau, ressemble à Baudelaire comme un frère.
Samuel a le front pur et noble. Les yeux brillants comme des gouttes de café. Le nez taquin et railleur. Les lèvres impudente et sensuelle, le menton carré, despote, la chevelure prétentieusement raphaélesque. C'est à la fois un grand fainéant, un ambitieux, triste, et un illustre malheureux, car il n'a guéri dans sa vie que des moitiés d'idées. Le soleil de la paresse qui resplendit sans cesse au-dedans de lui lui vaporise et lui mange cette moitié de génie dont le ciel l'a doué. Parmi tous ces demi-grands hommes que j'ai connus dans cette terrible vie parisienne, Samuel fut plus que tout autre l'homme des belles œuvres ratées. Créature maladive et fantastique, dont la poésie brille bien plus dans sa personne que dans ses œuvres, et qui, vers 1 heure du matin, entre l'éblouissement d'un feu de charbon de terre et le tic-tac d'une horloge, mais toujours apparu comme le dieu de l'impuissance. Dieu moderne et hermaphrodite. Impuissance si colossale et si énorme qu'elle en est épique. Un des travers les plus naturels de Samuel était de se considérer comme l'égal de ceux qu'il avait su admirer. Après une lecture passionnée d'un beau livre, sa conclusion involontaire était « Voilà qui est assez beau pour être de moi. » Et de là à penser c'est donc de moi, il n'y a que l'espace d'attirer.
Pour sa satisfaction, Baudelaire écrit le Salon de 1846. Mais pour sa subsistance, il collabore au périodique Le Corsaire Satan, que dirige le solennel Monsieur Saint-Alme.
Eh bien, Dominé Simpson, quoi de nouveau par la ville ?
Oh, rien.
Comment rien ? Croyez-vous qu'on fait le journal avec rien et de l'esprit ? Vous avez beau polir une crotte de chèvre, ça sera toujours un crottin. Heureusement que mes petits jeunes gens vont arriver. Bonjour, Monsieur Viard. Bonjour, Monsieur Vitu. Bonjour, Monsieur Baudelaire. Trois grands hommes. Eh bien, Monsieur Viard, vous ne voulez toujours pas travailler ?
Votre journal était si bête hier. Il y avait un article déshonorant.
Taisez-vous donc là-bas, Messieurs Vitu et Baudelaire. On ne peut pas travailler.
Voyez-vous, Vitu, les créanciers sont comme les femmes. On ne saurait trop les aimer. Eugène Delacroix me disait hier...
Tiens ! C'est joli, ça. Écrivez-nous donc ça.
Vous savez bien que je n'écris pas, moi.
Ah, c'est juste. Monsieur a trop de génie. Monsieur nous fera quelques livres sur la peinture, comme l'an passé. Voyez-vous, vous n'avez pas le sens commun, et votre Eugène Delacroix vous tourne la tête.
Je ne discute pas avec vous, monsieur. Voyez-vous, Champfleury, le chic et le pensif perdront l'art. C'est une chose incroyable, le nombre d'idées neuves que j'ai introduites dans mon volume. Je me mets sous la protection des bourgeois et des artistes. Avez-vous éprouvé, vous tous, que la curiosité du flâneur a souvent fourré dans une émeute la même joie que moi à voir un gardien du sommeil public, sergent de ville ou municipal, la véritable armée, crosser un républicain? Et comme moi, vous avez dit dans votre cœur, crosse, crosse un peu plus fort, crosse encore, municipal de mon cœur, car en ce crossement suprême, je t'adore et te juge semblable à Jupiter, le grand justicier.
L'émeute, tempêtant vainement à ma vitre, ne fera pas lever mon front de mon pupitre, car je serai plongé dans cette volupté d'évoquer le printemps avec ma volonté de tirer un soleil de mon cœur et de faire de mes pensées brûlantes une tiède atmosphère.
À ce superbe isolement, Baudelaire devait bientôt renoncer. Jules Buisson, un ami de jeunesse, rapporte...
En 1848, le 24 février au soir, je le rencontrai au carrefour de Bussy, au milieu d'une foule qui venait de piller une boutique d'armurier. Il portait un beau fusil à deux coups luisant et vierge et une superbe cartouchière de cuir jaune tout aussi immaculée. Je le hélai et il vint à moi simulant une grande animation. « Je viens de faire le coup de fusil !» me dit-il. Et comme je souriais regardant son artillerie tout brillant neuve, pas pour la République, par exemple. Il ne me répondait pas, criait beaucoup, et toujours son refrain, il fallait aller fusiller le général Hoppic.
1848 ne fut amusant que parce que chacun y faisait des utopies comme des châteaux en Espagne. 1848 ne fut charmant que par l'excès même du ridicule. Mon ivresse en 1848. De quelle nature était cette ivresse ? Goût de la vengeance, plaisir naturel de la démolition, ivresse littéraire, souvenir des lectures. Le 15 mai, toujours le goût de la destruction, goût légitime, si tout ce qui est naturel est légitime. Les horreurs de juin, folie du peuple et folie de la bourgeoisie, amour naturel du crime. Ma fureur au coup d'État. Combien j'ai essuyé de coups de fusil. Encore un Bonaparte. Quelle honte.
En octobre 48, Baudelaire est nommé rédacteur en chef d'un quotidien de Châteauroux, un quotidien plutôt réactionnaire. Les actionnaires lui offrent un banquet. Foulard rouge, Baudelaire harangue.
Messieurs, dans cette révolution dont on vient de parler, il y a eu un grand homme. Le plus grand de cette époque, un des plus grands hommes de tous les temps. Cet homme, c'est Robespierre. Robespierre n'est estimable que parce qu'il a fait quelques belles phrases.
Le président du conseil d'administration lui lance cette mercuriale.
Monsieur, vous nous avez trompés. Madame Baudelaire n'est pas votre femme. C'est votre favorite.
Monsieur, la favorite d'un poète peut quelquefois valoir la femme d'un notaire. Le 2 décembre m'a physiquement dépolitiqué. Il n'y a plus d'idée générale. Si j'avais voté, je n'aurais pu voter que pour moi. Je n'ai pas de conviction comme l'entendent les gens de mon siècle parce que je n'ai pas d'ambition. Il n'y a pas en moi de base pour une conviction. Il y a une certaine lâcheté. Ou plutôt une certaine mollesse chez les honnêtes gens. Les brigands seuls sont convaincus. De quoi ? Qu'il leur faut réussir. Aussi, ils réussissent. Pourquoi réussirais-je ? Puisque je n'ai même pas envie d'essayer. On peut fonder des empires glorieux sur le crime et de nobles religions sur l'imposture. Cependant, j'ai quelques convictions dans un sens plus élevé et qui ne peut pas être compris par les gens de mon temps. Je comprends qu'on déserte une cause pour savoir ce qu'on éprouvera à en servir une autre. Il serait peut-être doux d'être alternativement victime et bourreau. De Maistre et Edgar Poe m'ont appris à raisonner.
Ce n'est pas seulement le plaisir aristocratique de déplaire qui pousse Baudelaire vers Joseph de Maistre, c'est aussi le désir de se rattacher à une pensée providentialiste qui dispense de penser et qui oppose systématiquement Baudelaire au mythe du progrès, de ce progrès dont Edgar Poe a dénoncé les coupables ravages.
Les États-Unis ne furent pour Poe qu'une vaste prison qu'il parcourait avec l'agitation fiévreuse d'un être fait pour respirer dans un monde plus anormal, qu'une grande barbarie éclairée au gaz. Et sa vie intérieure, spirituelle, de poète ou même d'ivrogne, n'était qu'un effort perpétuel pour échapper à l'influence de cette atmosphère antipathique. Impitoyable dictature que celle de l'opinion dans les sociétés démocratiques. N'implorez d'elle ni charité, ni indulgence, ni élasticité quelconque dans l'application de ses lois aux cas multiples et complexes de la vie morale. Savez-vous pourquoi j'ai si patiemment traduit Poe ? Parce qu'il me ressemblait. La première fois que j'ai ouvert un livre de lui, j'ai vu, avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets rêvés par moi, mais des phrases pensées par moi et écrites par lui 20 ans auparavant.
Dans sa préface à la traduction des Histoires extraordinaires, Baudelaire, retraçant la biographie de Poe et faisant allusion à de petits épisodes romanesques, ajoute...
Y a-t-il lieu de s'étonner qu'un être aussi nerveux, dont la soif du beau était peut-être le trait principal, ait parfois, avec une ardeur passionnée, cultivé la galanterie? Cette fleur volcanique et musquée, pour qui le cerveau bouillonnant des poètes est un terrain de prédilection.
Autant qu'à Edgar Poe, c'est à lui-même que Baudelaire pense. Baudelaire qui... sous l'anonymat de 1852 à 1854, adresse à Madame Sabatier, à la présidente, l'ami de Gautier, de Flaubert, de Sainte-Beuve, la vivandière de Faune des Goncourt, des poèmes pleins d'un amour idéalisé, inclus dans des lettres de platonique admiration.
Thank you.
à Madame Sabatier, mardi 7 février 1854. Je ne crois pas, madame, que les femmes en général connaissent toute l'étendue de leur pouvoir, soit pour le bien, soit pour le mal. Sans doute, il ne serait pas prudent de les en instruire toutes également. Mais avec vous, on ne risque rien. Votre âme est trop riche en bonté pour donner place à la fatuité et à la cruauté. D'ailleurs, vous avez été sans aucun doute tellement abreuvé, saturé de flatterie, qu'une seule chose peut vous flatter désormais, c'est d'apprendre que vous faites le bien, même sans le savoir, même en dormant, simplement en vivant. Quant à cette lâcheté de l'anonyme, que vous dirais-je? Quelle excuse allèguerais-je, si ce n'est que ma première faute commande toutes les autres et que le pli est pris? Supposez, si vous voulez, que quelquefois sous la pression d'un opiniâtre chagrin, je ne puisse trouver de soulagement que dans le plaisir de faire des vers pour vous, et qu'ensuite je sois obligé d'accorder le désir innocent de vous les montrer avec la peur horrible de vous déplaire. Voilà qui explique la lâcheté.
Il marche devant moi, ses yeux pleins de lumière, qu'un ange très savant a sans doute aimanté. Il marche, ses divins frères qui sont mes frères, suspendant mon regard à leur feu diamanté, me sauvant de tout piège et de tout péché grave. Ils conduisent mes pas dans la route du beau. Ils sont mes serviteurs et je suis leur esclave. Tout mon être obéit à ce vivant flambeau. Charmants yeux, vous brillez de la clarté mystique qu'ont les cierges brûlant en plein jour. Le soleil rougit, mais n'éteint pas leur flamme fantastique. Ils célèbrent la mort, vous chantez le réveil. Vous marchez en chantant le réveil de mon âme. Astre dont le soleil ne peut flétrir la flamme.
N'est-il pas vrai que vous pensez comme moi, que la plus délicieuse beauté, la plus excellente et la plus adorable créature, vous-même, par exemple, ne peut pas désirer de meilleur compliment que l'expression de la gratitude pour le bien qu'elle a fait? À Madame Sabatier, lundi 8 mai 1854. Il y a bien longtemps, madame, bien longtemps que ces vers sont écrits. Toujours la même déplorable habitude, la rêverie et l'anonyme. N'êtes-vous pas, et je le dis avec un peu d'orgueil, non seulement une des plus aimées, mais aussi la plus profondément respectée de toutes les créatures? Je veux vous en donner une preuve. Riez-en, beaucoup, si cela vous amuse, mais n'en parlez pas. Ne trouverez-vous pas naturel, simple, humain, que l'homme bien épris haïsse l'amant heureux, le possesseur, qu'il le trouve inférieur, choquant? Eh bien, il y a quelque temps, le hasard m'a fait rencontrer celui-là. Comment vous exprimerai-je, sans comique, sans faire rire, votre méchante figure toujours pleine de gaieté, combien j'ai été heureux de trouver un homme aimable? Un homme qui pût vous plaire. Mon Dieu, tant de subtilité, n'accuse-t-elle pas là des raisons? Pour en finir, pour vous expliquer mes silences et mes ardeurs, ardeurs presque religieuses, je vous dirai que quand mon être est roulé dans le noir de sa méchanceté et de sa sottise naturelle, il rêve profondément de vous. De cette rêverie excitante et purifiante naît généralement un accident heureux. Vous êtes pour moi non seulement la plus attrayante des femmes, de toutes les femmes, mais encore la plus chère et la plus précieuse des superstitions. Je suis un égoïste, je me sers de vous. Voici mon malheureux torche-cul. Combien je serais heureux si je pouvais être certain que ces hautes conceptions de l'amour ont quelque chance d'être bien accueillies dans un coin secret de votre adorable pensée.
À la très chère, à la très belle, qui remplit mon cœur de clarté. À l'ange, à l'idole immortelle, salut dans l'immortalité. Elle se répand dans ma vie comme un air imprégné de sel, et dans mon âme inassouvie verse le goût de l'éternel. Sa chair toujours frais qui parfume l'atmosphère d'un cher réduit, encensoir toujours plein qui fume en secrète à travers la nuit. Comment, amour incorruptible, t'exprimer avec vérité? Grain de musc qui gît invisible au fond de mon éternité. À la très bonne, à la très belle, qui m'a versé joie et santé, salut dans la vie éternelle, en l'éternelle volupté.
Pardonnez-moi, je ne vous en demande pas plus.
Le 1er juin 1855, la Revue des Deux Mondes publie 18 fleurs du mal. C'est le premier emploi de ce titre. 18 fleurs du mal, dont 3 poèmes qui avaient été adressés sous l'anonymat à Madame Sabatier. La même année, Gérard de Nerval avait été trouvé pendu à un soupirail, rue de la Vieille Lanterne. Baudelaire publiait 3 articles sur les beaux-arts à l'exposition universelle de 1855, ainsi que ses 2 premiers poèmes en prose. Et il intervenait auprès de George Sand pour lui recommander l'actrice Marie Daubrin, qui joue un rôle important dans les intermittences du cœur baudelairien, dans ces intermittences où Jeanne Duval, ou Jeanne Lumière, continue à tenir son rôle.
Je rentrerai dans le concubinage. Si je ne suis pas installé le 9 janvier chez Mademoiselle Lemaire, je serai chez l'autre. Il me faut à tout prix une famille. C'est la seule manière de travailler et de dépenser moins.
Le 25 juin 1857, les fleurs du mal sont mises en vente. Le 5 juillet, le Figaro, sous la signature de Gustave Bourdin, dénonce le recueil.
L'odieux y coudoie l'ignoble. Le repoussant s'y allie à l'infect. Jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de seins dans si peu de pages. Jamais on assista à une semblable revue de démons, de fœtus, de diables, de chloroses, de chats et de vermines. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur. Encore si c'était pour les guérir. Mais elles sont incurables.
Au garçon de café qui lui apportait en souriant le Figaro du jour, dans lequel on parlait de lui, « Eh monsieur, réplique-t-il avec dédain, qui vous a demandé ce papier? Sachez que je ne jette jamais les yeux sur ces cochonneries-là. » La justice suit son cours. Baudelaire s'inquiète, il écrit en hâte à Poulet-Malassis, son éditeur.
« Vite, cachez, mais cachez bien toute l'édition. Vous devez avoir 900 exemplaires en feuilles. Il y en avait encore 100 chez Lanier. Ces messieurs ont paru fort étonnés que je voulusse en sauver 50. Je les ai mis en lieu sûr et j'ai signé un reçu. Reste donc 50 pour nourrir le Cerbère justice. Voilà ce que c'est que d'envoyer des exemplaires au Figaro. »
Charles confie à sa mère.
« Vous savez que je n'ai jamais considéré la littérature et les arts que comme poursuivant un but étranger à la morale, et que la beauté de conception et de style me suffit. Mais ce livre, dont le titre « Fleurs du mal » dit tout, est revêtu, vous le verrez, d'une beauté sinistre et froide. Il a été fait avec fureur et patience. D'ailleurs, la preuve de sa valeur positive est dans tout le mal qu'on en dit. Le livre met les gens en fureur. Du reste, épouvanté moi-même de l'horreur que j'allais inspirer, j'en ai retranché un tiers aux épreuves. On me refuse tout, l'esprit d'invention, et même la connaissance de la langue française. Je me moque de tous ces imbéciles. Et je sais que ce volume, avec ses qualités et ses défauts, fera son chemin dans la mémoire du public lettré, à côté des meilleures poésies de Victor Hugo et de Théophile Gautier, et même de Baer.